C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. On sait que toute relation s'établit et se maintient par le dialogue. Ce qui est vrai dans le sens des relations humaines, bien sûr, l'est aussi, bien sûr, dans le domaine de la foi. Vous parlez avec le Seigneur ? Tout à l'heure, nous parlions avec des amis. Ils me disent, mais prier, mais comment, il faut apprendre quelque chose ? Non, tu parles. Tu parles comme si tu parlais avec ton papa. Là, c'est ton papa céleste. Il faut que tu parles avec. Alors, dans la relation avec Dieu, c'est pareil. Dans le domaine de la foi, eh bien, c'est dans le domaine du dialogue, bien sûr. Tout a commencé pour nous par une parole de Dieu qu'elle a su adresser à notre cas, acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh, frère, que ferons-nous ? » C'est ainsi eh bien, que commence, je dirais, toute marche avec Dieu. Dieu nous parle. Dieu se fait entendre. Dieu, quelque part, se révèle. Amen. Le message, la prédication de la parole de Dieu, mais c'est la plus belle annonce qu'il puisse y avoir. D'ailleurs, il est dit qu'ils sont beaux, les pieds, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. D'accord ? Alors, le temps, bien sûr, risquant d'amener une certaine usure dans la relation, créant aussi peut-être des circonstances particulières qui vont amener, eh bien, soit de l'incompréhension, du relâchement ou du refroidissement, du recul, ou bien sûr d'autres éléments séparateurs, eh bien, il faut que parfois, bien sûr, eh bien, une nouvelle rencontre ait lieu. Amen. Allez, un renouveau, des retrouvailles. Amen. Peut-être une nouvelle disposition de cœur, que sais-je. Alors Dieu dit par la bouche d'Osée, je parlerai. Et cette nouvelle rencontre se fera, bien sûr, sur la base d'une parole qui doit de nouveau nous interpeller. Il dit, je parlerai à son cœur. C'est donc, je dirais, à la conscience spirituelle que Dieu veut s'adresser. Amen. Il s'adresse à notre cœur. Notre cœur vit un bouleversement. Quelquefois, on ne sait pas, on n'est pas bien, on est tiraillé. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe là ! Dieu est en train de travailler en nous. Amen. La version de la Colombe traduit ceci, ces mêmes versets. C'est pourquoi, voici qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. En la séduisant. On n'aime pas trop entendre parler, hein, c'est un séducteur, le gars. Eh oui. Alors, bien sûr, cette sorte de séduction n'est ni pernicieuse ni vulgaire, au contraire. Hein. C'est le désir, par exemple, d'un époux frustré qui veut regagner le cœur de son épouse, qui a perdu, elle, bien sûr, de vue ses qualités à lui. Vous voyez, donc, il faut se reconquérir quelque part. Et c'est un petit peu dans ce sens-là. Voilà qu'il veut de nouveau éveiller, peut-être, l'amour. Notre amour pour lui. Amen. Elle veut peut-être faire cela. Alors moi, un seul Dieu est capable de produire, bien sûr, cette expérience. Il dit, je la conduirai au désert. Et bien sûr que certaines circonstances, eh bien, sont plus favorables que d'autres pour que Dieu, justement, puisse parler à notre cœur. Eh oui, il y a le brouhaha de ce monde, il y a toutes les activités dans lesquelles nous sommes engagés, hein, qui empêchent, eh bien, souvent, eh bien, une écoute attentive de la voix du Seigneur. Donc, il faut, quelque part, qu'il nous conduise au désert. Le désir, bien sûr, évoque des circonstances propices au dessein de Dieu pour nous parler, parce qu'il va nous y rencontrer, voilà, seul à seul. Amen. Eh oui, c'est important. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Amen. Waouh. Ça ne m'est pas arrivé, ça, hein, face à face. Mais ça doit être impressionnant. Hein. Je crois que là, on est marqué. Hein. Là, il a. Hein. Eh oui. Alors, quelles sont les raisons d'une telle nécessité ? En commençant sa déclaration par « c'est pourquoi », voilà que Dieu souligne la réalité de certaines raisons qui ont rendu certainement son intention nécessaire. Hein ? C'est pourquoi. Voilà, il y a eu « c'est pourquoi maintenant, allez ». Voyez un petit peu, c'est comme cela. Alors, par la bouche de Michée, chapitre 6, verset 3, Dieu va dire à Israël « mon peuple, que t'ai-je fait ?» En quoi t'ai-je fatigué ? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron, Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, le roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, roi de, fils de Béor, de Sittim, à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Je crois que de temps en temps, eh bien, Dieu, quelque part, travaille en nous pour que nous puissions nous souvenir d'où nous avons été tirés. Hein ? On a des personnes en couple, le fameux couple, qu'on suit toujours, là, et on était encore avec eux tout à l'heure. Ils vont nous inviter au Mans. Je pense que c'est pour qu'on les amène là-haut. Eh bien, ça me ramène à la mémoire beaucoup de choses. Je dis, tiens, mais c'est vrai, tu as fait tout ça. Vous voyez, avec le temps, ben, c'est mis derrière et on se souvient du chemin par lequel on est passé. Et puis, elle me fait rire parce que cette épouse, son épouse, là, de gars, s'appelle Nathalie. Et parce qu'elle me dit, mais waouh, mais tu as la réponse à tout. Mais je dis, mais c'est mon expérience. Eh oui. Alors, on se revoit quelque part. Hein. C'était le béaba, hein. les premiers prémices, là, les prémices qui étaient là, hein, bien sûr, de la rencontre avec Dieu. Mais c'est important. Et il faut, quelque part, hein, que nous nous souvenions. Et puis Dieu le dit, hein, il le dit avec un ton de reproche. Mais que t'ai-je fait, hein? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Hein, il voudrait bien le savoir. Et quelquefois, eh bien, on a besoin de réfléchir, bien sûr. Hein. Souviens-toi. Hein, souviens-toi d'où je t'ai fait monter de l'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, hein, alors qu'il y avait des desseins qui étaient désagréables pour toi. Mais voilà. Alors, dans le contexte du livre d'Osée, Dieu se compare à un époux. Et il considère Israël comme étant son épouse. Et malheureusement, celle-ci a pris des amants. Eh oui. Alors, pour en arriver là, hein, il y a chapitre 1, verset 2, chapitre 2, eh bien, il a bien fallu qu'Israël, quelque part, ait oublié eh bien, l'amour de son Dieu. Mais également les innombrables œuvres accomplies par Dieu pour son peuple. Ils ont oublié tout cela. Il a fallu aussi, eh bien, qu'ils aient perdu de vue les qualités, les vertus de ce Dieu parfait. Israël a mis en oubli ce que Dieu est réellement. Pourtant, il est. Il est l'Éternel. Il est le Tout-Puissant. Il est grand. Il est omniscient. Il sait tout. Il peut tout. Osée 2, versets 21 et 22, et moi j'ai pris la version à la colombe. Hein. Il est dit, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Vous voyez ? Vous savez, quand Dieu se répète, en vérité, je vous le dis, c'est qu'il insiste. Parce qu'il veut être compris. Je te fiancerai à moi, je te fiancerai à moi, je te fiancerai à moi. Voilà de quelle manière, avec justice, avec compassion, avec droiture, avec loyauté. Je vais le faire. Amen. Je te fiancerai à moi. Est-ce que nous sommes fiancés? Fidèles. Amoureux du Seigneur. Amen. Alors il y a des attributs divins et qui font du Seigneur... je dirais l'époux parfait, nous on est surclassés là, les hommes. Hein. Et oui, mais c'est l'époux parfait pour l'Église. Et tout ça, ça se retrouve en Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 32, je vous lis. Hein. Marie, dans nous, Marie, d'accord ? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Est-ce que nous aimons notre corps? Certains font de la gonflette parce qu'ils aiment leur corps, hein, ils veulent le rendre encore plus beau. Donc, hein, bien sûr, il est dit que personne n'a sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et il dit, ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Alors si nous avons de l'affection pour notre chair, pour notre nous-mêmes, pour nous, hein, bien sûr, nous la nourrissons, nous en prenons soin. Mais c'est ce que Christ fait pour nous, nous qui sommes l'Église, le corps de Christ. Amen. Alors je reviens à Osée dans son libertinage, à Israël également, dans son libertinage, dans son adultère. Voilà qu'Israël n'a pas pu trouver le bonheur. Vous voyez, quelquefois, on croit que le bonheur, il est ailleurs. C'est un carpentracien qui dit, le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? Vous connaissez Christophe Maé? C'est un carpentracien. Hein, voilà. Alors, Osée 2,9, il est dit, elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, eh bien, je veux retourner vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Voyez ? Nous avons ce feu du premier amour avec le Seigneur. Et puis, quelquefois, on se laisse détourner. Voyez ? On se laisse quelque part attirer par autre chose. Le feu du premier amour, il peut peut-être diminuer, baisser, mais on peut le ranimer. Et simplement, en revenant, hein, je reviendrai avec mon premier mari, car alors, j'étais plus heureuse que maintenant. Il faut revenir. Vous aimez le bonheur ? Voir à Dieu ? Pour le retrouver, où il est où, hein ? Il est où ? Je pourrais reprendre Christophe Maé. Il est où le bonheur ? Dans la personne de Jésus. Amen. Il faut aussi préciser que c'est au bout d'une accumulation de déceptions permises par Dieu que le retour va être envisagé. Je reprends Osée chapitre 2, verset 8, versets 13 et 15 également, dans la version Colombe, dont vous le verrez autrement. « C'est pourquoi, voici, je ferme ton chemin avec des buissons. Je le barre d'une barrière. Elle ne trouvera plus ses sentiers. » Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu agit. Il dit, je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses lunes, ses nouvelles lunes, ses shabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes, ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Quand elle est fière en plus, hein, vous voyez. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, elle suivait ses amants et moi, elle m'a oublié. Vous croyez que Dieu est jaloux ? Moi, je dis que oui, Dieu est jaloux, mais de sainte jalousie. Parce que nous voir nous embarquer dans un chemin de perdition, dans un chemin détourné, dans un chemin où on va galérer, on va souffrir, on va se faire du mal, on va se perdre, bien sûr que Dieu est jaloux, mais ça, c'est la sainte jalousie de Dieu. Il veut nous épargner tout cela. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cet époux trompé, eh bien, il est prêt à pardonner, il est prêt à reprendre son épouse infidèle. Un petit peu comme Osée lui-même a été invité à le faire. Parce que Osée, c'est réel. Et il va être invité à reprendre son épouse, à lui accorder le pardon. Osée 3, verset 1, Colombe, l'Éternel me dit, va encore, aime une femme aimée d'un amant, pourtant adultère, aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. Ouais. Comme quoi, même devant, par exemple, le péché d'adultère, eh bien, le divorce n'est pas une obligation absolue. Eh oui. Une permission que Dieu donne, c'est possible. Mais je crois que le plus important, c'est le pardon. Hein ? Bien sûr. Alors, bien sûr, le mieux serait de pouvoir exercer ce pardon, hein, la miséricorde, ce qui est évidemment difficile parce que le mariage est bâti sur la confiance. Finalement, le mariage que nous avons souscrit avec Dieu, il est bâti sur la confiance. Nous lui faisons confiance, il nous fait confiance. Mais si, par exemple, eh bien, on a été trompé. Est-ce que c'est facile de pardonner ? Vous voyez ? Et il nous est arrivé de tromper Dieu et il nous pardonne. Il nous reprend. Vous ne croyez pas que c'est un amour supérieur au nôtre ? Bien supérieur, hein ? Eh oui. Exercer le pardon, la miséricorde, lui le fait. Parce qu'au cœur humain, c'est impossible ou difficile, bien sûr. Hein, on arrache tout là, mais il faut le faire, bien sûr. Et c'est vrai que pour nous, il nous faudra toute la grâce et l'aide de Dieu pour y parvenir, sur le plan humain, bien sûr. Hein, oui. Alors, il n'est pas possible de trouver, je dirais, dans le monde, ni dans l'infidélité à l'Évangile, ce que nous n'avons qu'en Jésus, que dans le Seigneur, que dans l'Évangile, que dans la personne de Dieu. Détournez ce regard de là-bas, sur la croix, la personne de Jésus. Amen. Alors, toutefois, je dirais que ces considérations ne doivent pas devenir un prétexte pour être infidèle, car ceux qui feraient de tels calculs, hein, parce que vous savez, on nous a dit quelquefois, des personnes nous ont dit, allez, au plus on fait du mal, au plus Dieu pardonne. Eh bien oui. Mais je crois que ce serait finalement aller au-devant d'une cruelle déconvenue, hein, quelque part, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Hein ? Eh oui. Alors, à force de vivre, par exemple, dans un milieu privilégié ou dans des circonstances trop favorables, eh oui, eh bien, l'homme, le chrétien, peut finir justement parfois à ne plus les apprécier.